soir, le Brent chute sous les 40 dollars à Londres. Aujourd'hui, c'est une première depuis 7 ans. Même tendance à New York. Tiens, le savez-vous, le prix du baril, il a baissé de 60% en 18 mois seulement. Ça fait plus d'un an que le monde entier croule sous une abondance de pétrole et l'OPEP ne fait absolument rien contre. Et puis vous ajoutez que l'Iran revient dans la course dans un mois. Alors le pétrole, jusqu'où descendra-t-il? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, ça pose plein de questions aussi. Hein. L'impact sur les pétroles de schiste, moins intéressant peut-être, on verra, sur l'industrie parapétrolière, qui commence un petit peu à tirer l'allant, et impact géopolitique, ça ne va pas s'arranger, donc justement, avec le retour de l'Iran, je vous en parlais. Autre sujet dans les décodeurs de l'écho, 19h35, l'Iran, on en reparlera, avec Air France, qui va rouvrir le Paris-Téhéran à partir du mois d'avril. Et puis à 20h, pourquoi Apple mise-t-il sur le français de Vialet qui fabrique des enceintes de luxe. Avec nous, il y a Jean-Louis Chilansky, président du Centre des hydrocarbures non conventionnels. Dominique Bouvier, président du groupement des entreprises et des professionnels des hydrocarbures et des énergies connexes. C'est-à-dire, c'est tout le secteur parapétrolier, vous savez. C'est aussi bien les études sismiques, l'exploration, la fabrication d'outils de forage. Et puis Olivier Appert, grand spécialiste du pétrole, conseiller au Centre Énergie de l'IFRI, spécialiste donc de l'or noir. Alors Patrick Pouyanné, tiens justement, c'est le directeur général de Total, hein, n'est pas très optimiste hein, sur les prix du pétrole en 2016. Il ne prévoit pas de redressement des prix l'an prochain. Voilà ce que disait Patrick Pouyanné.
Je pense qu'en 2016, nous verrons toujours un approvisionnement qui montrera que les marchés seront toujours bien approvisionnés, avec des capacités grandissantes. Il y a une inconnue sur le rythme de l'accroissement de la demande, qui a été plutôt forte en 2015, 1,8 million de barils par jour. Ce fut la deuxième plus importante augmentation de la demande au cours des 10 dernières années.
Voilà, Patrick Pouyanné, donc le directeur général de Total. Olivier Appert, comment est-ce qu'on est passé en un an et demi de 115 dollars à 40 dollars? Alors bien sûr, il y a la demande hein, qui n'est plus au rendez-vous, la Chine notamment, l'Europe, l'économie mondiale, bon, un petit peu en convalescence. Mais pourquoi il y a cette surabondance de pétrole?
Ça vient du changement de paradigme avec les Shell Gas et les Shell Oil, en particulier
donc, là, le
pétrole de schiste. Le pétrole de schiste qui est aux États-Unis, pour faire simple, on a découvert ces dernières années une Norvège tous les deux ans. Vous savez que la Norvège est un grand pays pétrolier. Au Dakota du Nord, pour faire simple, on a découvert une Norvège tous les deux ans. On s'en était pas rendu compte véritablement. Ça a été caché par les aléas sur la production libyenne, sur la production, l'embargo iranien, etc. Mais là, maintenant, c'est apparu comme le nez au milieu de la figure, avec un excès d'offres par rapport à une demande qui est un petit peu moins dynamique qu'on avait pu l'espérer.
Et puis, il y a l'OPEP aussi. L'OPEP, il y a encore une réunion vendredi, donc, et puis de l'OPEP, qui refuse toujours d'abaisser le plafond théorique de production qui maintient la production échangée dans ce contexte de surabondance d'offres. Comment ça s'explique? Comment ça se justifie cette décision de l'OPEP, Olivier Appert?
Alors, c'est pas vraiment une décision de l'OPEP, c'est une décision des monarchies du Golfe, pour être plus explicite, voilà, en particulier l'Arabie Saoudite, qui a bien compris que s'ils baissaient leur production, à ce moment-là, les prix remonteraient. Mais ce sont les producteurs concurrents, les Shell aux États-Unis, les pétroles non conventionnels aux États-Unis, les Russes et les Brésiliens qui en profiteraient et donc l'Arabie Saoudite perdrait sa part de marché. C'est une reprise d'un scénario qu'on a connu lors du contre-choc pétrolier en 85-86 et l'Arabie Saoudite ne veut pas de ce scénario.
Oui, alors justement, tiens, Jean-Louis Chilansky, c'est l'Arabie Saoudite donc qui est dans une position de force. Oui. C'est l'Arabie Saoudite qui a des vieux compte à régler, qui est en train de faire la peau l'industrie du pétrole de schiste aux États-Unis?
Je sais pas s'ils ont des comptes à régler, mais en tous les cas, ils ont un compte à régler avec les producteurs de pétrole de schiste américains, c'est sûr. Ouais. Ce sont eux qui ont entraîné la chute des prix. Olivier Appert vient de le dire, 4 millions de barils jour de plus sur le marché, c'est autant que les Américains ne prennent pas, n'importent pas. Et c'est ça qui a provoqué la chute de prix. Moi, je veux dire, ce qui me frappe vraiment, c'est le fait qu'avec les événements géopolitiques qu'il y a aujourd'hui, s'il n'y avait pas le pétrole de schiste américain, le pétrole ne serait pas à 100 dollars, il serait à 150 dollars le baril.
Juste. Ouais.
Il y a des sites de guerre dans cette région qui sont à quelques centaines ou milliers, mille kilomètres des lieux de production du pétrole. Dans l'autre monde, celui qu'on connaissait il y a deux ans, ça aurait provoqué une flambée énorme du prix du pétrole.
Et vous dites, finalement, heureusement qu'il y a les gaz de schiste, tout ça, amorti un petit peu les effets de cette guerre, qui sont déjà considérables par ailleurs sur d'autres terrains.
Bah oui, non, mais ça fait plus qu'amortir. Aujourd'hui, les marchés ne sont pas inquiets. Il y a du pétrole, il y a une offre très abondante, et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Enfin, il peut se passer des choses, mais il y a là, sous le pied, en quelque sorte, une forte production de pétrole de schiste.
Olivier Appert, on est dans un nouveau contre-choc pétrolier?
On est effectivement dans un nouveau contre-choc pétrolier. On constate que le marché commence à se rétablir, c'est-à-dire que la production baisse, beaucoup moins qu'on pouvait l'espérer. La baisse de production des pétroles de schiste américains est très faible par rapport à l'effondrement du nombre d'appareils de forage en Amérique du Nord. La demande a tendance à augmenter, en particulier en un an, le nombre de SUV qui ont été achetés par les Américains a augmenté de 30 ou 40%. Donc la demande réaugmente, mais plus faiblement qu'on le pensait. L'offre baisse, mais plus faiblement qu'on le pensait. Mais il y a un certain rétablissement de l'équilibre du marché, mais ça prend du temps.
Et l'OPEP n'a même pas fixé vendredi donc, d'établir un objectif. Il y a des plafonds actuellement de 30 millions de barils jour. Mais il est déjà... Au-delà, on est à 32 millions, dit-on. Ça sert à quoi de faire des plafonds?
C'est un plafond indicatif qui, avant, il y a 10 ans, 15 ans, c'était un plafond quand même normatif. Mmh. C'était indicatif. Là, maintenant, ça n'existe même plus, puisqu'on n'y fait même plus référence dans le communiqué de l'OPEP.
Ça sert à quoi, l'OPEP, encore, Jean-Louis Chilansky?
Vous avez raison. Aujourd'hui, l'OPEP ne joue plus son rôle. Ouais. Pendant des années, ils ont joué un rôle de régulateur de la production, et donc ils arrivaient à réguler les prix. Aujourd'hui, ils ont abandonné. De facto, il n'y a plus de cartel de production du pétrole, en tous les cas, plus depuis un an.
Alors, il y a des impacts. On est avec Dominique Bouvier, donc président du groupement des entreprises, des professionnels, des hydrocarbures et des énergies connexes, pour simplifier ce qu'on appelle le secteur parapétrolier. Multiples activités, je le disais, des études sismiques, de l'exploration, des outils de forage. Et on a des pépites en France. On a Technip, on a Vallourec, on a Total... On a CGG en ce moment qui connaît quelques difficultés. Lorsque le pétrole était à 100 dollars, les compagnies pétrolières, elles pouvaient investir. Elles avaient de l'argent, elles avaient du cash. Maintenant qu'on est à 40 dollars, évidemment, vous en subissez les frais, vous.
Alors, c'est sûr que pour le secteur, même si on avait tous conscience qu'il se passait quelque chose aux États-Unis avec les hydrocarbures de Rochemère, les prix pouvaient éventuellement baisser, mais c'est sûr que le parapétrolier a reçu un coup un peu sur la tête lorsque cette chute rapide s'est produite. Alors ça se traduit, ça se voit pas nécessairement tout de suite dans les chiffres d'affaires parce que le temps de réalisation des projets est long et donc on est encore dans une phase de construction des projets, des contrats qui ont été signés il y a plusieurs années. On s'approche du démarrage, mais c'est sûr que pour tout ce qui concerne les carnets de commandes en 2015 et très probablement en 2016 vont beaucoup souffrir du retard des investissements qui, à 40 ou 38 dollars aujourd'hui, ne sont plus du tout les mêmes que ceux qu'on pouvait imaginer à 100 dollars. Mais enfin, bon, la réflexion est engagée.
Et on a vu CGG Veritas qui a annoncé il y a quelques jours qu'il va devoir lever 350 millions de dollars pour résister quelque part, qui décide de toucher ses effectifs. On va passer donc de 10 500 dans le monde à, l'an dernier à 6 400 en 2016. 21 navires il y a quelques années. La flotte va être amenée donc à 5 navires en 2016. Il n'est pas le seul à souffrir, CGG Veritas, au-delà même de la France. Schlumberger, l'italien Saipem, Halliburton également. Tous dégraissent allègrement, Monsieur Bouvier.
Oui, alors, le parapétrolier, c'est évidemment les grandes sociétés que vous avez citées, qui sont visibles. Mais il faut savoir qu'en France, c'est un nombre très important, 500 à 600 entreprises, qui sont, elles, plutôt issues du monde des PME, des sociétés de taille intermédiaire, voire des start-up, et qui, elles, évidemment, ont moins de moyens pour faire face aux difficultés conjoncturelles. D'où des réponses sur lesquelles on pourra parler, mais qui passent beaucoup par, justement, la solidarité de cet écosystème du parapétrolier et du paragazier en France.
Et Olivier Appert, vous avez dirigé l'IFP Énergie Nouvelle, qui est aussi un parapétrolier. Hein. On voit que c'est tout le secteur qui est touché, évidemment, globalement.
C'est tout le secteur qui est touché parce qu'il y a une baisse des investissements tout à fait considérable par les compagnies pétrolières face à cet effondrement des prix. Baisse des investissements de l'ordre de 20 à 50%, plus fort aux États-Unis qu'ailleurs, plus faible notamment au niveau des pays producteurs. Mais cette baisse des investissements porte en priorité sur ce qu'on peut couper. Et ce qu'on peut couper, c'est les activités d'exploration, car quand on a déjà dépensé des milliards de dollars pour un investissement offshore ou un investissement de gaz naturel liquéfié, on continue les investissements jusqu'au bout, on ne va pas les arrêter après avoir dépensé des milliards. Et donc l'impact sur les entreprises en France et dans le monde est différencié suivant le secteur. Aujourd'hui, c'est l'exploration, mais demain, ce sera les autres entreprises dans le secteur parapétrolier.
Jean-Louis Chilansky.
Non, mais on vient de le dire. La réaction des sociétés pétrolières qui ont vu leurs revenus baisser considérablement, c'est de couper les investissements.
Bien sûr.
Quand vous coupez les investissements d'exploration en particulier, ce sont toutes les entreprises que vous avez citées tout à l'heure qui sont dans l'exploration, qui souffrent en premier. Mais tout le secteur est en train de souffrir, c'est incontestable.
Alors la question, est-ce que ça va durer aussi, hein? Parce que, bon, très bien, franchement, quelqu'un voit-il comment la surabondance pourrait se résorber de vous trois? Allez-y, monsieur Dominique Bouvier.
Bon, moi, je ne vais pas parler de l'évolution du prix du baril, mais plutôt de ce que nous devons faire.
Ouais.
Nous sommes convaincus qu'il faut maintenant nous adapter pour vivre dans un environnement de prix du baril bas. Et on sait très bien que le jour où il va remonter, proche j'espère, les compagnies pétrolières seront automatiquement plus prudentes. Et en tout cas, et ça c'est certainement un dialogue que nous avons avec elles, on sait bien que quand le baril était à 100 dollars, il y a un certain confort qui a entouré les capex.
Bon, les investissements.
Et bien sûr, on sait bien qu'il va falloir trouver des solutions pour vivre avec un baril plus bas, donc réduire les investissements, mais ça ne veut pas dire nuire à la qualité, à la sécurité. C'est trouver des options techniques nouvelles, c'est de la recherche, c'est un nouveau mode de relations contractuelles. C'est beaucoup de choses que nous commençons, sur lesquelles nous commençons à réfléchir avec nos grands clients.
Bah, ça veut dire donc, comme le dit Dominique Bouvier, Olivier Appert, il va falloir s'habituer à vivre avec un pétrole au prix bas, donc il peut descendre jusqu'à combien? On est à 40 dollars aujourd'hui, donc début décembre, 30, 20, oui, je sais, oui, c'est compliqué d'y répondre.
Mais le prix du pétrole...
Ça va se poursuivre, cette baisse?
Alors, le prix du pétrole, ça résulte d'une alchimie entre les fondamentaux économiques, entre l'offre et la demande, la géopolitique au Moyen-Orient, et puis tout ça sur un fond de spéculation. Donc, en ce qui concerne la géopolitique au Moyen-Orient, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est quand même inquiétante, et comme le disait Jean-Louis Chilansky, si le marché n'était pas aussi bien approvisionné, effectivement, il y aurait des inquiétudes. Quant à la spéculation, c'est une anticipation qui, par rapport à court terme, une réaction à court terme. Les fondamentaux du marché ont tendance à se rétablir plus lentement qu'on le pensait. On a fait un petit calcul qui montrait que sur les précédentes baisses de prix du pétrole, c'est pas la première fois que le prix du pétrole baisse significativement, le marché se rétablit environ en 4 ans et on retrouve le prix initial à peu près en 4 ans. On retrouvera pas le prix de 115 dollars par baril de juin 2014 qui résultait quand même. C'était parce que Daesh était à 50 km de Bagdad.
Juste.
Et c'était ça qui avait déclenché cette flambée. Donc, on retrouvera des prix quand même qui vont remonter d'ici la 2020.
Et l'arrivée de l'Iran dans un mois, l'Iran qui revient dans la course, c'est fini les sanctions, l'accord sur le nucléaire a été signé le 14 juillet, 1 million de barils 000 jours à partir de janvier 2007. Ouais, Jean-Louis Chilanski, qu'est-ce que ça va changer?
Ah ben c'est beaucoup, 1 million de barils par jour. Mais ça va pas être immédiat. Hein. Mmh. Ils vont pas passer de 0 à 1 million de barils. Ça va prendre du temps tout au long de 2016. Je pense que sur 2016, la moyenne devrait être de 500 000 barils de jour, encore que ça sera à voir. Mais ça va peser sur le marché, c'est évident. Hein, c'est autant qui va venir en plus sur l'offre. Et donc, tout ça illustre le fait que la remontée du prix du pétrole va être très très lente, beaucoup plus lente qu'avant. Parce qu'avant, on était beaucoup dans les phénomènes conjoncturels. Vous avez dit, il y a 7 ans, en 88 ou 89, c'était la crise financière. Ça a baissé.
2008.
Et puis ensuite c'est revenu. Là, on est dans un problème structurel. On a trouvé plus de pétrole. Il y a plus de pétrole disponible.
Alors, super, très bien, Jean-Louis Chilanski. Ça, c'est, vous vivez un peu sur cet acquis depuis 7 ans. Très bien. Mais alors, avec un pétrole à $40, voire moins, on va voir jusqu'à combien ça peut descendre. Est-ce que les producteurs de schiste, finalement, ne mettent pas en jeu quelque part leur vie? Parce que finalement, eh bien, ça ne devient plus intéressant de produire, donc, alors que le pétrole, on peut l'acheter à moins de $40.
C'est pas tout à fait vrai. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez investi, vous produisez. Le coût marginal de production n'est pas très élevé. Ce qui se passe, effectivement.
Combien il est?
Quelques dollars. Enfin, ce qui coûte cher, c'est l'investissement. À partir du moment où vous avez investi, vous continuez de produire.
D'accord.
Par contre, ce qui se passe, c'est que les nouveaux investissements, eux, sont coupés. Le nombre d'appareils de forage a été divisé par 3. Et donc, à un moment ou à un autre, la production de pétrole de schiste américain va baisser.
La chute des cours va finir par réduire la production aux États-Unis. Dominique Bouvier, c'est ce qu'il dit, Jean-Louis Chilanski.
Oui. Mais je voudrais... vous avez parlé de l'Iran, je fais une incidente, c'est pour dire que c'est sûr que c'est plus de barils, mais pour les sociétés du parapétrolier, c'est aussi une opportunité très intéressante. On y était connu, on y retourne, et on signera des contrats dès que la possibilité nous sera offerte.
Décidément, quel est le Dorado, l'Iran, et dans 5 minutes, on évoquera le retour d'Air France, justement, au mois d'avril.
Et je veux dire aussi qu'on a beaucoup parlé du prix du baril, donc du pétrole, mais notre industrie, elle s'appelle parapétrolier, mais tout autant paragazier. Or, la consommation de gaz, elle, continue d'augmenter. En plus, ce qui se passe en ce moment à la COP21, etc., est plutôt favorable au développement du gaz. Et ça, pour nous, ça veut dire des projets à la fois de production, de liquéfaction, et puis beaucoup de projets liés à l'approvisionnement stratégique de nos pays d'Europe, c'est-à-dire des stockages souterrains, des gazoducs, enfin, il y a déjà des opportunités.
Justement, Olivier Appert, c'est intéressant ce que vient de dire Dominique Bouvier dans le contexte de la COP21. Est-ce que finalement, ces prix bas du pétrole, $40, on est passé sous les $40 pour le Brent à Londres, idem à New York. C'est une chance pour les énergies vertes, les énergies renouvelables, les énergies propres, quelque part, de gagner, de capter de nouveaux investissements. Finalement, le pétrole, il est moins rentable, donc on va aller sur le vert. D'accord ou pas?
Oui, mais en fait, le pétrole est quand même plus compétitif, le gaz est plus compétitif par rapport aux énergies renouvelables. Donc, en fait, plutôt ce qui est mis en avant, c'est le fait que la baisse du prix du pétrole est un mauvais signe pour les énergies renouvelables. Ceci étant, avec les mécanismes qui ont été mis en place, en particulier en Europe, pour favoriser les énergies renouvelables dans le secteur électrique, en fait, ça change rien. Ça ne fait qu'augmenter le montant des subventions, car les coûts, les prix baissent, mais comme il y a des engagements d'enlèvement à prix garanti, en fait, ça veut dire que la subvention augmente. Voilà. Donc, ça ne change pas à court terme, ça ne change pas.
La baisse du prix du pétrole, c'est pas un bon signe pour les énergies renouvelables.
Mais pour les investisseurs, qui avaient pris l'habitude de miser sur le pétrole, qui rapportait beaucoup.
Oui.
Maintenant, ça rapporte plus.
Oui, mais encore faut-il que ces énergies renouvelables aient un prix ou un coût, comme disait Olivier, compétitif. Ouais. S'ils n'ont pas.
Il y a trop de subventions derrière.
C'est artificiel. Et investir sur les subventions, c'est un peu risqué.
Dernière question à tous. Hein. Les incidents géopolitiques. Hier soir, on parlait des élections au Venezuela avec l'opposition qui a emporté le scrutin. Donc 16 ans, c'est pour la première fois depuis 16 ans. On sait que le Venezuela est complètement dépendant du pétrole. On sait que le Canada est en récession à cause de la baisse des prix du pétrole. La Russie, c'est toujours un point noir. Tout ça, évidemment, va rebattre les cartes, Olivier Appert, au sein de ces grands pays.
Oui, ça va rebattre les cartes au sein de ces grands pays, mais là encore, le marché est dirigé par l'Arabie Saoudite, et c'est l'Arabie Saoudite qui a donné le signal. Et là, l'Arabie Saoudite se préoccupe peu quand même de la situation économique du Venezuela. Et l'Arabie Saoudite aussi, à mon avis, aura intérêt à continuer sa bataille de parts de marché pour ne pas permettre à l'Iran, qui est leur partenaire au Moyen-Orient,
leur ennemi.
Non, non.
la rivale.
Voilà, de revenir sur le marché, ouais. Parce que il faudra quand même que l'Iran prenne à coup de griffe ses parts de marché. Voilà, c'est
ça va pas être un long fleuve tranquille pour l'Iran avec l'Arabie Saoudite qui contrôle l'OPEP, qui fait la pluie et le beau temps.
Vous avez mentionné tout à l'heure les pays producteurs de pétrole. Pour les pays consommateurs comme la France, c'est une bonne nouvelle. Mais pour les pays producteurs de pétrole et de gaz, c'est une terrible nouvelle. Mais c'est pas seulement le Venezuela, c'est l'Algérie, c'est l'Irak, c'est les pays africains. Et là, ça va poser des problèmes considérables.
Et il y a un autre problème, on termine là-dessus. C'est Daesh qui plante son drapeau de plus en plus en Libye également, avec Sirte, la capitale, désormais l'État islamique, là où il recrute donc de nouveaux combattants, des milliers de combattants venus du Soudan, du Yémen, du Nigeria. La Libye, pays producteur. Il y a l'Italie qui souhaite organiser une réunion internationale à Rome dans un mois pour trouver un règlement politique en Libye. Il y a urgence sur les sites pétroliers libyens. Jean-Louis Chilansky.
Oui, il y aura urgence parce que la baisse considérable du prix du pétrole, c'est un signe d'instabilité très grave pour ces pays dont l'économie dépend essentiellement des revenus du pétrole.
Et on sait que ces mouvements terroristes comme l'État islamique aussi misent beaucoup sur le pétrole, donc la conquête des champs pétroliers, Olivier Appert.
Tout à fait, oui, même s'il faut relativiser. En fait, le pétrole que contrôle Daesh, les chiffres qu'on donne, hein, parce que c'est pas grand-chose, c'est de l'ordre de 50 000 barils jour qu'ils réussissent à vendre peut-être avec un discount à $20 par baril.
Ouais, voire moins, oui.
Donc c'est pas des sommes considérables, mais enfin ça permet quand même de mettre de l'essence dans les pick-up pour aller attaquer,
égorger, décapiter, voilà, bien sûr. Ouais. Merci à tous. C'est pas fini les décodeurs de l'écho. On a un riche programme ce soir. Tiens, on parlait de l'Iran justement. Pourquoi Air France repart-il à la conquête de l'Iran, l'ouverture du Paris-Téhéran, ça rouvre donc sur Charles de Gaulle à partir du mois d'avril. On va en reparler. Je remercie Jean-Louis Chilansky, président du Centre des hydrocarbures non conventionnels, Dominique Bouvier, le président de toute l'industrie parapétrolière française, le groupement des entreprises et des professionnels des hydrocarbures et des énergies connexes, et puis Olivier Appert, conseiller au Centre Énergie de l'IFRI, spécialiste du pétrole. À suivre, Pierre-Olivier Bandet, qui est le numéro 2 d'Air France. À tout de suite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.